La crise des années 30 en France doit être remise en perspective pour, d'un certain point de vue, en comprendre d'autant mieux les singularités. Alors, vu de France et même parfois souvent d'Europe, on perd de vue que la crise des années 30 a été une crise mondiale et que par conséquent, il existe sur cette crise une historiographie sur divers continents et pas uniquement sur le nôtre. Alors, l'objet ici n'est pas évidemment de s'attacher à cette histoire mondiale de la crise, mais déjà de souligner qu'à l'échelle européenne, au fond, la France n'est pas forcément à considérer comme le pays le plus en crise durant ces années 30. Le symbole, en effet, de la crise européenne des années 30, c'est d'abord l'Allemagne. Rappelons-le, l'Allemagne dont l'historien Detlef Peukert a souligné qu'elle était atteinte, cette Allemagne, d'une crise totale. Une crise totale qui signifie d'abord un chômage de masse considérable, 6 millions de chômeurs plus 8 millions de chômeurs, j'allais dire, partiels. Une crise totale qui passe aussi en Allemagne par une crise politico-institutionnelle qui permet, dans ces conditions, au national-socialisme de s'imposer, au pouvoir en moins de 2 ans, puisque les nazis comptaient 18% des voix en 1930 et qu'ils étaient, à la fin de l'année 32, la première force politique d'Allemagne. La Grande-Bretagne aussi est en crise durant l'entre-deux-guerres et cette crise britannique, elle est d'abord une crise économique avec un chômage important qui est un des thèmes électoraux majeurs des élections de 1928. Et il faut bien dire que dans le cas britannique, c'est d'abord la dimension économique de la crise qui compte, puisque dès 1931, les Anglais réussissent à construire un gouvernement d'union nationale entre les conservateurs, les libéraux, une partie des travaillistes, ce qui permet au fond au pays d'éviter des divisions trop profondes et de ne pas voir prospérer un certain nombre de courants extrémistes que sont le fascisme ou le communisme. Alors, la France dans tout ça, me direz-vous. La France dans tout ça est dans une situation très particulière, très singulière à l'origine, au point d'ailleurs qu'on a pu parler d'une exception française. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la situation de la France en 1930, 1931, on constate que d'abord, du côté des étrangers, on dresse de ce pays un tableau plutôt flatteur. Un des journalistes allemands les plus célèbres, Friedrich Seeburg, a même publié chez Grasset un livre qui s'intitulait Dieu est-il français? Dieu est-il français? Pourquoi? Parce qu'au fond, on vivrait, selon lui, on vit, selon lui, beaucoup mieux en France que dans le reste du monde. La France est au fond un pays qui a su échapper au gigantisme, où on a préféré sa qualité de vie au productivisme des années 20. Et dans ces conditions, la France ferait en quelque sorte figure d'Isola. Cette idée d'Isola, cette idée d'exception française, on la retrouve chez les dirigeants politiques du temps. Et le premier ministre, ce qu'on appelait à l'époque le président du Conseil, André Tardieu, conservateur, explique en 1930 que la France est un îlot de prospérité dans un monde en crise. Alors, est-ce que Seeburg d'un côté, est-ce que André Tardieu de l'autre, au fond, en tenant ce type de discours, font preuve d'une inconscience profonde, d'un optimisme délibéré? Les chiffres sont là, qui contrastent justement avec ce qu'on a évoqué à propos de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. En effet, la France en 1930 a un taux de croissance qui frise les 4%, ce qui nous ramène évidemment à des taux de croissance plus proches des 30 glorieuses, entre guillemets, que de la crise des années 30. Par ailleurs, la France en 1930-1931 se caractérise par une balance des paiements en excédent important. Et la Banque de France peut s'enorgueillir de compter dans ses coffres des réserves d'or substantielles. Dans ces conditions, en 1930, la France paraît effectivement dans une situation infiniment meilleure que celle de ses voisins. Si on y ajoute que ce pays possède un empire colonial dont à l'époque il est fier et qu'il célèbre, c'est le centenaire de l'Algérie, célébrée en 1930, c'est la grande exposition coloniale de 1931, où se pressent des millions de visiteurs. Si on ajoute encore que ce pays est crédité y compris par ses voisins et ses alliés, de l'armée la plus puissante du monde, ce qui est tout à fait discutable, mais c'est ainsi que la France est représentée, eh bien, on peut considérer que, effectivement, en 1930-1931, la France présente une situation relativement singulière. Alors, il y a bien sûr un certain nombre d'ombres au tableau. La France des années 30 est sans doute moins atteinte par la crise que les autres, parce que, d'un certain point de vue, elle est un pays qui, économiquement, présente des structures différentes. La France des années 30 est très différente de la France que l'on connaît aujourd'hui. C'est un pays qui, avec le recensement de 1931, vient simplement de passer le seuil des 50% de population urbaine. C'est un pays également qui, du point de vue de sa structure entrepreneuriale, compte énormément de petites et moyennes entreprises. Une France qui présente au plan structurel des différences avec un certain nombre de ses voisins. Une France qui est un pays, rappelons-le, dont le recensement de 1931 a établi que pour la première fois, les ruraux étaient inférieurs aux urbains, une France qui, du point de vue de la structure de ses entreprises, n'a pas connu le gigantisme de certains de ses voisins, et bien sûr des États-Unis, et qui est un pays dominé par des petites et moyennes entreprises. Une France qui est moins exposée à la concurrence internationale que d'autres. On pourrait multiplier ici les exemples, il n'en demeure pas moins que cette France, en 1930-1931, paraît effectivement être un pays qui se sort assurément mieux d'une situation mondiale difficile que la plupart de ses voisins. Alors, le contraste est évidemment saisissant avec la situation telle qu'elle se présente 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, c'est 1940, c'est une défaite sans précédent, c'est l'effondrement d'une armée, d'une classe politique, d'un pays tout entier. Et se pose évidemment la question de savoir comment on en est arrivé là, comment passe-t-on de cet îlot de prospérité dans un monde en crise à la défaite de 1940, 10 ans plus tard. Les historiens français et étrangers qui ont travaillé sur cette crise des années 30 ont, pour une part d'entre eux, repris à leur compte une interprétation très classique chez les contemporains, qui était une interprétation fondée au fond sur l'idée de décadence. Un historien comme Eugen Weber a expliqué par exemple dans un livre sur la France des années 30 que la décadence en France devint évidente dans tous les domaines durant les années 30. Le grand historien spécialiste des relations internationales, le premier qui a travaillé sur la politique extérieure de la France, Jean-Baptiste Durosel, qualifiait la politique extérieure de la France entre 1932 et 1939 de décadente. Son volume s'intitule « La décadence », les années suivantes s'intitulent « L'abîme ». Alors, il est sûr, il est certain que l'histoire des années 30 peut être considérée comme celle d'une chute, comme celle d'un déclin, c'est le point de vue des contemporains, il ne doit pas être négligé. Mais ce que nous allons essayer de montrer ici, c'est qu'en réalité, la crise des années 30 en France se présente aussi comme un moment de mutation. Ce n'est pas uniquement une période de chute, une période de déclin, c'est aussi un moment de mutation, même si le pays, au bout du compte, ne parvient pas, pour toute une série de raisons, à sortir de cette crise. Alors, justement, quelle est cette crise des années 30? Qu'est-ce qui la caractérise par rapport à ce que nous avons évoqué à propos de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne? Ce qui caractérise la crise de la France des années 30, c'est ce que l'on pourrait appeler son caractère polymorphe. Du point de vue économique, la crise française est infiniment moins grave, ou au moins moins grave, que la crise économique allemande ou que la crise économique britannique. En revanche, dans le cas français, la crise n'est pas seulement qu'une crise économique. La crise économique va progressivement s'emboîter avec une crise politico-institutionnelle de première importance et, plus largement, avec ce problème lancinant qui est celui de la relation de la paix et de la guerre, avec une crise véritablement d'identité collective, une crise de conscience qui permet de comprendre, au fond, pourquoi ce pays va s'engager à reculons ou au moins à résigner dans la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Alors, trois temps vont rimer cette présentation, trois temps vont la marquer. Dans un premier temps, nous allons nous attacher à cette crise économique, au volet économique de la crise. Ensuite, j'évoquerai le volet politico-institutionnel pour ensuite m'attacher à la question de la guerre et de la paix. Alors, le volet économique, tout d'abord. Le volet économique passe par la mise en perspective de trois éléments qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que cette crise des années 30 peut être assimilée à une crise très profonde du libéralisme et de l'orthodoxie. Deuxième élément important, c'est que cette crise des années 30, du point de vue économique, va articuler, ou s'articuler plutôt, en France, à une réflexion sur la question de l'intervention de l'État. Une intervention de l'État qui s'accompagne, et ça c'est un élément essentiel, d'une montée en puissance de la technocratie à partir de ce moment-là. Alors, une crise donc qui pose très directement la question du libéralisme. Il faut en effet considérer deux choses. La première, c'est que le modèle tertio-républicain, du point de vue économique, est d'abord un modèle globalement libéral. Le cœur de cette Troisième République, le Parti radical, sur le plan économique, tout en défendant un progrès social graduel, hérité du solidarisme de Léon Bourgeois, s'inscrit en même temps dans une logique capitaliste et libérale. Et cette vision du libéralisme, du capitalisme, elle est évidemment partagée par ceux qui sont, au début des années 30, les experts patentés en matière économique et financière. Les experts patentés en matière économique et financière sont à l'époque les professeurs d'économie politique. Parmi eux, on trouve quelques grands noms, j'en citerai un en particulier, qui est celui de Charles Rist. Alors, ces professeurs d'économie politique s'intéressent évidemment de très près à la situation économique mondiale. Quand je disais tout à l'heure que la France était un îlot de prospérité dans un monde en crise, cela ne signifie pas évidemment que les Français ne regardaient pas ce qui se passait ailleurs. Et ils ont en particulier regardé de près ce qui se passait en Angleterre avec la question de la dévaluation de la livre en 1931 qui là précipite non seulement la crise en France, mais précipite véritablement la conscience de la crise. Cela étant, pour ces économistes libéraux, au fond, la crise des années 30 serait beaucoup moins nouvelle qu'il y paraît. Elle est grave, assurément, mais il raisonne au fond en réfléchissant à propos de ce qu'on appelle la Grande Dépression, aujourd'hui, hein, cette crise des années 30, avec également la dépression de la fin du 19e siècle. Et dans ces conditions, pour ces économistes libéraux, la crise est un très mauvais moment à passer, bien entendu, avec des conséquences sociales graves, notamment le chômage, mais les remèdes qui doivent être employés pour la juguler sont essentiellement des remèdes fondés sur l'orthodoxie budgétaire et l'orthodoxie monétaire. Ce qui signifie deux choses. Un équilibre budgétaire qu'il faut garantir absolument. Au fond, un État doit pouvoir se gérer comme un bon ménage. Et deuxième élément très important, ne surtout pas jouer avec la monnaie, car la dévaluation est considérée comme un danger profond, une marque d'échec. Et la France a d'ailleurs été particulièrement marquée par l'histoire des dévaluations depuis la Première Guerre mondiale, puisque le franc, entre l'avant-guerre et 1928, la stabilisation a perdu les 4/5 de sa valeur. Donc garder une monnaie forte est considéré comme un marqueur de puissance, un élément absolument incontournable du dispositif, évidemment, d'une reprise économique attendue qui ne saurait que survenir une fois le mauvais moment de la crise passé. Alors, cette vision des experts, elle est au fond partagée par les élites politiques traditionnelles et en particulier par ceux qui vont hériter du pouvoir aux élections de 1932, élections de 1932 qui sont remportées par les gauches. Alors, par les gauches non communistes, à savoir le Parti radical, dominé à l'époque par la figure d'Édouard Herriot, allié à ce moment-là aux socialistes dans ce que l'on appelle un néo-cartel. Un néo-cartel, pourquoi ? Parce que c'est le deuxième cartel des gauches après celui des années 1924-1926. Il est important de revenir sur cette première expérience du cartel des gauches de 1924-1926 pour deux raisons. La première, c'est que en 1932, comme précédemment, les socialistes ont participé à la victoire électorale, mais ils ont refusé de gouverner, de participer au gouvernement. Ce qui a provoqué d'ailleurs, à l'intérieur du Parti Socialiste, des tensions importantes et ensuite ce que l'on a appelé la scission des néo-socialistes, qui trouve là une de ses origines. Deuxième élément important, c'est que cette période du cartel des gauches avait été, pour les radicaux et pour Édouard Herriot en particulier, un moment extrêmement difficile, car sur le plan économique, la politique suivie par Édouard Herriot avait été, au plan économique et monétaire, un véritable échec. Herriot avait essayé de l'expliquer en mettant en avant le mur d'argent, mais c'est incontestablement une explication courte. Dans ces conditions, Édouard Herriot tenait en 1932 à s'entourer des avis les plus précis, les plus adaptés à la situation, du moins le pensait-il. Et Édouard Herriot a fait appel pour ce faire à une figure extrêmement reconnue en matière de finances publiques, qui était un grand professeur de l'époque, qui s'appelait Gaston Gèze. Et Gaston Gèze a validé, après 1932, la politique économique et financière et monétaire orthodoxe menée par le gouvernement Herriot et d'ailleurs ses successeurs. Le problème, nous y reviendrons, c'est que cette politique n'a nullement donné les résultats attendus et que la crise a continué de s'aggraver. Et c'est justement sur fond d'aggravation, de développement et d'aggravation de cette crise que de nouvelles figures apparaissent. De nouveaux experts apparaissent. Experts qui peuvent en particulier être incarnés dans un groupe important des années 30 qui s'appelle le groupe X-Crise. Ce groupe X-Crise, sa naissance n'a rien de fortuit. Il naît à l'été 1931 et il va se développer à partir de l'automne 1931, c'est-à-dire à partir du moment où la France et les Français ont le sentiment d'entrer dans la crise. Et ce groupe, qui est un groupe composé de polytechniciens, qui va avoir très rapidement pignon sur rue, va prendre comme cible justement les experts traditionnels, les professeurs d'économie politique. Les gens d'X-Crise, parmi lesquels on trouve la figure de Jean Coutreau, ou encore celle d'Alfred Sauvy, promis à une très belle carrière, eh bien, ces gens d'X-Crise vont réfléchir à deux choses. D'abord, ils vont réfléchir aux origines de la crise, ils vont essayer de la définir autrement qu'à partir de raisonnements proprement monétaires, mais ils vont surtout essayer de réfléchir à des remèdes pour sortir le pays de la crise. Et cette question des remèdes est ici fondamentale, car elle heurte de plein fouet la doxa, si je puis dire, libérale, défendue par Gaston Gèze, les experts officiels et les gouvernements en place. En effet, les gens d'X-Crise, qui voient arriver à eux, pour les écouter et pour dialoguer avec eux, un certain nombre de dirigeants politiques, de droite et de gauche d'ailleurs, mais qui ne sont pas forcément sur des positions orthodoxes, je pense à droite en particulier à Paul Reynaud, vont proposer, pour sortir le pays de la crise, d'aller dans trois directions. Première direction importante, sortir effectivement du dogme monétaire et poser très clairement la question de la dévaluation. La question de la dévaluation dans la France des années 30, c'est, comme l'a dit d'ailleurs Paul Reynaud, une véritable affaire Dreyfus monétaire. La question de la dévaluation ne doit nullement être considérée comme un problème uniquement technique, c'est un problème beaucoup plus important, en ce sens qu'il met en jeu la croyance des Français, des décideurs également, dans la monnaie, et que l'idée de dévaluation renvoie à une idée d'instabilité, et c'est en ça qu'elle est détestable pour toute une partie de l'opinion publique. Et en même temps, ces gens d'X-Crise, appuyés par un certain nombre de dirigeants politiques, considèrent à ce moment-là qu'il faut dévaluer. Ils ne sont pas entendus, mais ils considèrent qu'il faut dévaluer. Premier élément important. Deuxième élément important, ils pointent, les uns et les autres, un retard français. Un retard français notamment quant à l'outil statistique. Au fond, pour construire une politique économique, encore faudrait-il avoir un outil statistique. Et, explique-t-il, cet outil statistique, la France ne l'a pas, contrairement à un certain nombre d'autres pays. Et il faut par conséquent qu'elle se dote de cet outil statistique. Tout ça est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'économie, qui au fond pouvait être enseignée avec des mots, et y était enseignée avec des mots durant les années 30 en France, à la faculté de droit, eh bien cette économie, pour eux, c'est d'abord des chiffres. C'est une discipline qui est beaucoup plus en phase avec les mathématiques qu'elle ne l'est au fond avec des disciplines plus littéraires. Et puis, troisième élément important, c'est la question de l'intervention de l'État. Face au discours libéral porté par ces républicains de tradition, ces gens d'Ixtrise, appuyés encore une fois par d'autres, vont poser très directement la question de l'intervention de l'État, la question en particulier du plan, ce qu'on appelle le planisme, pour justement reconstruire une économie avec un État fort qui intervient, mais qui en même temps oriente, qui donne une direction à l'économie. Alors, entre 1932 et 1934, évidemment, là, les positions des gens d'Ixtrise sont des positions relativement marginales, même si elles commencent à trouver un écho incontestable, et si elles sont relayées, bien sûr, dans d'autres sphères de l'opinion. Mais progressivement, surtout, les difficultés du pays, les difficultés économiques du pays, eh bien, posent très clairement la question de l'efficacité du modèle porté par les dirigeants au pouvoir. Alors ce n'est plus Édouard Herriot, parce qu'on est à l'époque dans une période d'instabilité gouvernementale, mais après Édouard Herriot, ce fut Édouard Daladier et puis Camille Chautemps, mais la situation évidemment n'est pas fondamentalement différente. Alors, la chose est d'importance, pourquoi? Parce que c'est véritablement au bout de deux ans et demi, que la question est posée de savoir dans quelle mesure des politiques dites orthodoxes peuvent véritablement donner une solution, apporter une solution à la crise. Et je dirais, pour conclure ce premier point, que finalement, la crise des années 30 en France va contribuer au discrédit du libéralisme. Au point d'ailleurs que un des esprits les plus célèbres du temps, une des grandes figures de la technocratie de l'époque, Auguste de Teuf, a pu faire une très célèbre conférence qui s'intitulait « Le libéralisme est mort ». Et cette mort du libéralisme, évidemment, qui vu d'aujourd'hui peut faire sourire, cette mort du libéralisme, elle est actée par de très larges secteurs de l'opinion. Toutes les alternatives qui sont proposées pour lutter contre la crise économique en France durant les années 30 passent autrement que par la voie du libéralisme. Et si on reprenait la célèbre expression de l'historien des idées Jean Touchard qui parle des mots de passe des années 30, eh bien on se rendrait compte que le mot libéral, libéralisme n'est plus employé, mais qu'en revanche on emploie beaucoup les mots de planisme, de corporatisme, même si évidemment le planisme, le corporatisme, l'interventionnisme peuvent se décliner sur des modes extrêmement différents selon les acteurs en présence. Il n'en demeure pas moins que cette remise en cause du libéralisme et des experts qui l'ont porté va s'accompagner évidemment de la promotion, de nouvelles figures qui vont être les technocrates. Cela étant, avant d'évoquer cette montée en puissance des technocrates, qui est un véritable marqueur, évidemment, de cette France des années 30, je voudrais très rapidement présenter les différentes politiques économiques suivies par les gouvernements successifs. Peut-on parler d'ailleurs de politique économique, dans la mesure où la rotation des gouvernements est importante sous cette Troisième République? Mais cela étant, il existe évidemment des choix différents selon les uns et les autres. Une politique tournée vers la déflation, c'est celle au fond du centre-droit, conduite par Pierre-Étienne Flandin et Pierre Laval, c'est l'année 1935, pour faire simple. Ensuite, le Front populaire, à l'époque de Léon Blum, entre 1936 et 1937, l'année Blum, de juin 36 à juin 37, va au fond proposer non pas une politique, comme on l'a parfois dit, inspirée du keynésianisme. L'influence de Keynes en France est à ce moment-là réduite, et Keynes est beaucoup moins lu qu'il ne va l'être par la suite, il l'est d'ailleurs très peu, soyons clairs, mais c'est une politique fondée sur ce qu'on appelle la politique du pouvoir d'achat, alors avec un souci effectivement de relance économique avec une hausse des salaires, avec les congés payés, avec une semaine de 40 heures, etc., etc., pour des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur des espérances du gouvernement, ni de ses électeurs d'ailleurs, sachant qu'au surplus, la dévaluation qui est conduite par le gouvernement Blum en septembre 1936 ne donne pas non plus les résultats attendus. Et si on continue cette histoire, on en arrive évidemment au démantèlement de cette politique de Léon Blum par ce que l'on a appelé les décrets-lois Reynaud de novembre 1938, qui marquent véritablement la fin du Front populaire, en ce sens qu'on en finit en particulier avec la semaine de 40 heures, mais ces décrets-lois 1938 et cette politique Reynaud sont aussi marqué par une reprise économique qui est en même temps inséparable du passage progressif d'une économie de paix vers ce qui est en train de devenir une économie de guerre ou de perspective de guerre. Alors, les politiques économiques suivies, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Soyons clairs là-dessus, Laval n'est pas Blum, Blum n'est pas Reynaud. Mais en même temps, quand on y regarde de près, deux choses peuvent être mises en évidence. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est qu'en réalité, ces politiques économiques pêchent toutes par un problème structurel lié aux institutions de l'époque, à savoir que, eh bien, les gouvernements changeant très rapidement, un an au maximum pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, le temps économique n'est pas le temps ministériel et dans ces conditions, elle peine à donner évidemment des effets. Comment juger sérieusement, par exemple, des politiques de déflation ou d'autres politiques suivies? Deuxième enseignement de ces politiques, et le plus important, c'est que ces politiques suivies mettent en scène, font intervenir pour les conduire, cette nouvelle catégorie, ces nouvelles figures que sont les technocrates. En effet, si un point rassemble les politiques conduites par Pierre Laval, Léon Blum ou encore Paul Reynaud, c'est la présence au sein des ministères à vocation économique de ces technocrates et notamment des gens d'X-Riz. De ce point de vue, il est tout à fait frappant d'observer que ce sont parfois les mêmes qui servent les différents gouvernements. Les mêmes avec les mêmes idées. Les mêmes idées, interventionnisme, rationalisation de l'économie, souci de sortir des logiques orthodoxes, et dans ces conditions, que ce soit les commissions de l'AH de Pierre Laval, le ministère de l'économie nationale de Charles Pinasse ou encore les décrets-lois Reynaud, eh bien, il y a, à travers cette montée en puissance des technocrates, un marqueur tout à fait propre aux années 30. Et, à cet égard, ces années 30 et cette présence des technocrates nous montre que cette période, une période marquée par un immobilisme forcené, peut être aussi entendue comme une période de mutation. Et là, je crois qu'il faut déplacer la chronologie économique pour la dissocier justement d'une chronologie politico-institutionnelle, ce qui est en train de se jouer avec cette montée en puissance de l'interventionnisme, de la montée des technocrates, du souci d'une économie organisée, etc. C'est une histoire française qui commence effectivement dans les années 30 et qui va durer jusqu'au début des années 50. C'est une nouvelle phase, une nouvelle séquence bien identifiée par les historiens, que ce soit Michel Margueras qui a parlé de la conversion entre 1932 et 1952 ou un historien américain, Philip Nord, qui a parlé d'un New Deal à la française. Et parler d'un New Deal à la française ou parler de la conversion, c'est montrer qu'au fond, la chronologie économique de ces années-là n'est pas évidemment la même que la chronologie politique, et que l'immobilisme dont on parle souvent, le déclin dont on parle souvent pour caractériser ces années 30, doit être en cette matière relativisé en ce sens que ces années 30 sont les années qui amorcent un processus de modernisation qui va d'ailleurs se poursuivre avec Vichy et ensuite la libération et les débuts de la reconstruction. Nous allons à présent entamer notre deuxième point qui porte sur les questions politico-institutionnelles et en particulier réfléchir sur les conséquences de l'émeute du 6 février 1934 par rapport notamment à la question de la réforme de l'État qui est une des grandes affaires évidemment des années 30 et de la crise des années 30. Alors, cela étant, la question de la réforme de l'État, la question de la crise politico-institutionnelle du modèle tertio-républicain n'a pas attendu l'émeute du 6 février pour se manifester. Pour comprendre les choses, il faut sans doute remonter au premier conflit mondial, ou plutôt au lendemain du premier conflit mondial. Car au lendemain du premier conflit mondial, la question est directement posée de savoir dans quelle mesure le système tertio-républicain tel qu'il fonctionnait avant la guerre, c'est-à-dire au fond un modèle d'inspiration principalement parlementaire, peut encore fonctionner dans le nouveau contexte né de l'après-premier conflit mondial. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que le premier conflit mondial s'est accompagné d'un renforcement du pouvoir exécutif, un exécutif qui a pris dans le dispositif institutionnel, pendant la guerre, une part évidemment qui n'était nullement la sienne avant le premier conflit mondial. Deuxième élément important, c'est que le pouvoir est en train de changer, ou plutôt son exercice est en train de changer. Et un des juristes les plus célèbres du temps, qui s'appelait Joseph Barthélemy, que l'on retrouve ensuite comme ministre à Vichy, mais le problème ici n'est pas là, c'est une des grandes figures en 1919 du droit de la faculté de droit de Paris, eh bien Joseph Barthélemy a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'intitule « Le problème de la compétence en démocratie ». C'est-à-dire que c'est dès 1919-1920 que se pose la question de savoir dans quelle mesure l'ancien système, fondé sur la délibération parlementaire, sur le poids de l'éloquence, est encore adapté aux enjeux nouveaux nés de la Première Guerre mondiale. Et cette question, évidemment, est inséparable de la mise sur pied de ce que l'on a appelé dans les années 20, on ne parle pas des technocrates à l'époque, de ce qu'on a appelé les techniciens, les relèves techniciennes, qui entendent, dès les années 20, moderniser à la fois les institutions, mais également l'administration. Le problème, c'est que les élites politiques traditionnelles, dominées notamment, encore une fois, par les radicaux, mais par toute une partie du centre droit, l'Alliance démocratique notamment avec Pierre-Étienne Flandin, ne veulent pas voir le système politique se transformer. Rappelons que la France, comme d'autres pays, ne néglige pas du tout ce que l'on a appelé la référence au mythe de la Belle Époque ou au retour à la normale. Et il va falloir véritablement la crise pour que les choses changent et que le problème, malgré tout, du pouvoir exécutif soit réellement posé. La crise, mais pas tout à fait. Parce que à la fin des années 20, au tournant des années 30, un homme à droite est conscient, de son point de vue bien sûr, de la difficulté et des impasses de ce modèle républicain traditionnel. Il a constaté, comme ses contemporains, que les réformes espérées durant les années 20 n'ont pas donné les résultats attendus. Et je dirais que la grande réforme politico-institutionnelle a été la création d'un Conseil national économique, un Conseil national économique qui est une instance d'expertise importante, mais qui n'a pas été au fond la nouvelle chambre attendue autour, par exemple, d'une réflexion profonde sur une nouvelle représentation, hein, une représentation qui n'est plus seulement la représentation du citoyen politique, mais la représentation du citoyen acteur économique et social. Et à la fin des années 20, au tournant des années 30, ce personnage, André Tardieu, va regarder de près ce qui se passe aux États-Unis, il le connaît, ce qui se passe en Grande-Bretagne également, et il va proposer aux élections de 1932 un programme, un projet de réforme de l'État. Ce projet de réforme de l'État, il faut en dire un mot parce que il est une rupture profonde avec le modèle parlementaire tertio-républicain. Pourquoi ? Parce que André Tardieu propose à ce moment-là deux choses. Il propose d'abord un renforcement du pouvoir exécutif. Le renforcement du pouvoir exécutif, déjà pour les radicaux, pour une partie des socialistes avec Léon Blum, mais pour une partie de la droite parlementaire, et notamment Flandin, qui est dans le même parti que Tardieu, mais qui partage sur le plan institutionnel des vues très différentes des siennes, le renforcement de l'exécutif, c'est considéré comme quelque chose d'intolérable, c'est peu ou prou le retour à une certaine forme de césarisme, et là on agite les fantômes de Napoléon III ou du général Boulanger. Mais Tardieu va plus loin. Renforcer le pouvoir exécutif, ça signifie quoi pour lui ? Tardieu n'a aucune envie de renverser la République. Ce qui intéresse Tardieu en revanche, en s'inspirant du modèle britannique, ce serait au fond d'engager la France dans un système véritablement bipartisan. Et Tardieu, j'allais dire, a eu l'idée de l'UMP avant la lettre. Il avait essayé, sans y parvenir, d'unifier les droites parlementaires. Et même plus largement, toute une série de forces qui pouvaient être considérées comme des forces anticommunistes. Il échoue, mais il a essayé. Mais l'idée de Tardieu, à travers ce processus, ce projet d'unification des forces politiques de droite, conservatrices, ce serait de mener une modernisation conservatrice, justement, en s'inspirant d'un modèle anglais qu'il comprend ainsi. Aux élections, et c'est ce qu'il propose pour 1932, il serait loisible, selon lui, à la fois que les Français puissent se prononcer sur un programme politique, qui serait un véritable contrat de législature, un programme politique, contrat de législature porté par une figure, en l'occurrence la sienne, qui, pendant 4 ans, gouvernerait avec une majorité stable. Ce projet d'André Tardieu, il est au rebours de ce qui se pratique dans la République parlementaire, et il heurte profondément Édouard Herriot, qui considère que les élections législatives servent d'abord à élire des députés, et que ce sont les députés, en leur sein, qui ensuite vont choisir eh bien, quelle majorité ils organisent pour soutenir un président du Conseil. Les Français sont amenés à choisir en 1932. Alors ils n'ont pas évidemment forcément tous conscience du choix aussi clairement que je l'expose, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces Français, en 1932, vont choisir, en votant pour les radicaux, pour Édouard Herriot, le modèle républicain le plus traditionnel. Alors de même que c'est en économie que c'est le modèle républicain le plus traditionnel qui avait affronté la crise, en matière politico-institutionnelle, c'est la même chose, à savoir que Herriot et les radicaux se retrouvent aux commandes entre 1932 et 1934. Alors simplement la situation là aussi se dégrade entre 1932 et 1934, elle se dégrade en particulier parce que la France connaît une série de scandales. Parmi ces scandales qui s'ajoutent à un mécontentement ambiant lié à une économie qui pose les soucis que nous avons vus, eh bien, parmi ces scandales, il faut bien sûr compter avec l'un des plus célèbres, celui d'Alexandre Stavisky, l'escroc bien connu qui va déboucher sur l'émeute du 6 février 1934. Alors, il n'est pas question ici de raconter le détail de l'affaire Stavisky et de l'émeute du 6 février 1934. Deux ou trois choses simplement peuvent être soulignées. La première, c'est que ce scandale Stavisky qui éclate à la fin de l'année 1933 va très durement éclabousser les radicaux. Il va très durement éclabousser les radicaux qui sont compromis et au surplus, lorsque Stavisky va être retrouvé mort le 8 janvier 1934, alors on dit qu'il s'est suicidé, ça c'est la thèse du gouvernement, personne n'y croit, on dit qu'il a été suicidé, qu'importe, ce qui compte ici, c'est que la mort suspecte de Stavisky génère le soupçon, génère la suspicion vis-à-vis des élites politiques. Deuxième élément important, c'est que cette crise de Stavisky ravive un anti-parlementarisme qui a toujours été en France particulièrement important, mais qui là connaît, pendant tout le mois de janvier 1934, un nouveau souffle, attisé en particulier par une presse monarchiste d'extrême droite, l'Action française de Charles Maurras, qui multiplie les articles contre le gouvernement des radicaux, les voleurs, etc., etc., et qui mobilise, comme les autres ligues nationalistes, ses troupes dans Paris. Le gouvernement est acculé, Chotan président du Conseil finit par démissionner le 28 janvier 1934, et alors qu'on pense la situation s'atténuer, le nouveau président du Conseil, Édouard Daladier, va, en limogeant le préfet de police de Paris, Quiap, réputé proche des ligues, eh bien, va attiser de nouveau une situation qui était en train de s'atténuer. Et le résultat, c'est l'émeute du 6 février 1934, une émeute organisée par les ligues nationalistes. En réalité, c'est une manifestation qui tourne extrêmement mal, mais qui est violemment réprimée, puisqu'on a 15 morts dans la nuit du 6 février et à ces 15 morts s'en rajoutent 4 autres dans les jours suivants. Alors, cette émeute du 6 février, elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale pour comprendre l'importance de la crise de régime qui est en train de se jouer. D'abord, parce que pour les adversaires du régime, évidemment, le régime, c'est l'assassinat, comme l'explique Maurras dans l'Action française. Après les voleurs, les assassins. Deuxième élément important, c'est que pour la gauche, le 6 février 1934 est considéré comme une sorte de coup d'État fasciste. En réalité, il n'y a pas eu de coup d'État, ni de tentative de coup d'État, puisque les lignes nationalistes, en réalité, n'avaient aucun programme, aucun projet ce soir-là. Et quant au fascisme des ligues, il serait à démontrer, sachant qu'en plus, au soir du 6 février, on trouve dans la foule de nombreux anciens combattants, ceux de l'Union nationale des combattants marqués à droite, mais aussi des anciens combattants proches du Parti communiste, l'Association républicaine des anciens combattants. Mais surtout, le 6 février, l'émeute du 6 février se traduit par une sortie de crise qui est une sortie de crise institutionnelle, avec l'avènement au pouvoir d'un personnage qui rassure, Gaston Doumergue, dit Gastounet, qui revient de son cher village de Tournefeuille pour former un gouvernement d'union nationale, où on trouve lui-même, bien sûr, André Tardieu, l'homme de la réforme de l'État, le maréchal Pétain, figure emblématique, qui doit à son prestige le fait de pouvoir être dans un gouvernement sans être parlementaire, mais on trouve aussi dans ce gouvernement d'union nationale Édouard Herriot, car les radicaux, comme d'habitude, réussissent à se trouver représentés, puisqu'il faut bien évidemment l'appui des radicaux pour que le gouvernement fonctionne et soit investi. Alors, l'année 1934 est véritablement l'année de la réforme de l'État. Une réforme de l'État qui est le grand projet de tous les groupements de l'époque. Et je parlais tout à l'heure des mots de passe à propos de l'économie, le planisme, le corporatisme. Eh bien, on retrouve la même chose avec la réforme de l'État. Les projets foisonnent, en particulier dans tous ces milieux qu'on appelle les relèves des années 30. Mais soyons clairs, chaque parti politique, syndicat, association a ses propres projets. Et finalement, on espère dans l'opinion que cette réforme de l'État va aboutir. En réalité, les mois passent et la réforme n'arrive pas, ou plus exactement elle arrive, elle finit par arriver. On est à la fin de l'été 1934, l'automne se profile, et finalement Gaston Doumergue a accepté et a obtenu la mise sur pied d'une réforme, qu'on appelle déjà une réformette. C'est déjà tout un programme. Mais Gaston Doumergue va choisir de présenter cette réforme sur un mode qui va avoir le don de hérisser les parlementaires, c'est-à-dire que Doumergue, plutôt que de venir présenter sa réforme devant les élus, va choisir de la présenter directement à la radio aux Français. Et là, pour les radicaux, pour cette partie de l'alliance menée par Flandin, qui est très attachée à l'alliance avec les radicaux, à ce qu'on appelle la concentration républicaine, l'alliance des centres, c'est absolument inacceptable. Et dans ces conditions, en novembre 1934, Doumergue se retrouve balayé du pouvoir, lui succède Pierre-Étienne Flandin, et à ce moment-là, évidemment, le sentiment dominant, c'est que la réforme de l'État est une réforme dorénavant enlisée. Une réforme dorénavant enlisée et qui n'a plus de raison d'être, pense-t-on, dans la mesure où ce sont les tenants de l'orthodoxie républicaine qui ont repris les rênes. Alors, je voudrais nuancer ici cette vision un peu trop schématique. C'est effectivement la vision que peuvent avoir un certain nombre de contemporains. Et il est clair que du côté des droites, une radicalisation se profile sur cette base en considérant que le régime, décidément, est impossible à réformer. En réalité, même si la grande réforme ne voit pas le jour, il faut bien considérer que les choses malgré tout évoluent. Les choses malgré tout évoluent à travers quelques indices importants. Premier élément intéressant, c'est Pierre-Étienne Flandin, président du Conseil, qui va acheter l'hôtel Matignon, enfin qui va faire acheter l'hôtel Matignon, et par conséquent doter la présidence du Conseil d'un lieu emblématique, différent évidemment de celui de l'Élysée, car il faut savoir qu'avant, la présidence du Conseil n'avait pas de locaux bien déterminés. Premier élément. Deuxième élément, Pierre-Étienne Flandin, qui a regardé lui aussi le modèle américain, l'expérience Roosevelt, s'entoure d'un certain nombre de conseillers. On appelle parfois son brain trust, n'exagérons rien, mais là aussi, la montée des technocrates qu'on a pu observer en matière économique se retrouve aussi dans l'appareil politico-institutionnel de l'État. Les radicaux d'ailleurs ne s'y trompent pas, ils dénoncent, en référence au temps mérovingien, ce qu'ils appellent les maires du palais, et le danger de ces maires du palais qui pourraient, au fond, prendre la place du souverain. Troisième élément important, c'est que cette réforme de l'État, effectivement, n'intervient pas, n'existe pas, mais le fonctionnement politico-institutionnel du régime, eh bien, évolue au fil des années, avec en particulier la multiplication d'un gouvernement par ce qu'on appelle les décrets-lois. Et les décrets-lois, qui sont devenus le mode de gouvernement habituel de la France tertio-républicaine, en particulier dans la deuxième moitié des années 20 à la veille de la guerre, je parlais tout à l'heure des décrets-lois de Paul Reynaud, eh bien, ce mode des décrets-lois traduit dans les faits, à défaut de le traduire véritablement dans le droit avec une véritable réforme institutionnelle, traduit dans les faits un renforcement du poids de l'exécutif par rapport au législatif. Il est clair effectivement que devant les urgences, eh bien le Parlement n'est plus à même de fonctionner comme il pouvait fonctionner avant 1914. J'ajouterai pour finir ce développement sur les enjeux politico-institutionnels que tous ces projets des années 30 n'ont pas été forcément des projets qui n'auraient servi à rien. Car si vous y regardez d'un peu près, vous constaterez que dans un tout autre contexte, qui est celui de mai-juin 1958 et l'été 1958, la constitution de la Ve République, mise sur pied par le général de Gaulle certes, mais aussi par quelqu'un qui s'appelait Michel Debré, qui a connu de très près tous ces mouvements, évidemment, d'idées liées à la réforme de l'État, eh bien, c'est au fond la Constitution de 1958 qui reprend à son compte tous ces projets de renforcement de l'exécutif, mais la Ve République de 1958 n'était pas considérée, ou n'aurait pas été considérée à coup sûr, comme républicaine par les tenants de la Troisième, les tenants orthodoxes de la Troisième. Troisième volet de cette présentation, après avoir évoqué la dimension économique de cette crise des années 30, après s'être attaché à ces enjeux politico-institutionnels, nous allons à présent essayer de voir au fond dans quelle mesure, en revisitant ce problème fondamental qui est le problème de la relation de la société française et de ses dirigeants à la guerre et à la paix, on entre au fond dans une crise qui est une crise non pas uniquement à comprendre sur un mode diplomatique, mais très probablement aussi sur un mode existentiel. Car c'est au fond le problème du destin d'un pays, d'une société qui est en train de se jouer pour les contemporains d'alors. La question de la guerre et de la paix, elle se pose en France évidemment avec acuité après l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir. Pas forcément immédiatement en 1933, mais très rapidement ensuite, bien sûr. Mais pour la comprendre et pour la saisir dans sa globalité, on ne saurait évidemment se contenter de démarrer cette histoire au milieu des années 30. Il faut en effet, pour comprendre la relation de la France et des Français à la guerre et à la paix, revenir et revenir et encore revenir sur le traumatisme lié au premier conflit mondial. C'est une donnée absolument incontournable. Une donnée incontournable d'abord quant à la saignée démographique que représente ce conflit. 1 500 000 morts, je rappelle que la France des années 30 c'est 40 millions de personnes. Deuxième élément important, c'est que cette Première Guerre mondiale, les conséquences de cette Première Guerre mondiale, elles sont visibles dans le quotidien des Français de l'époque. Et en particulier dans les enfants des années 20 qui deviennent les adolescents ou les adultes des années 30. Ils voient dans la rue constamment des mutilés, des traces avec eux de cette Première Guerre mondiale. Ajoutons encore l'importance du sentiment pacifique, pour ne pas dire pacifiste, qui irrigue cette société française dans ses profondeurs depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale. Les travaux sur les anciens combattants pendant l'entre-deux-guerres, en particulier la thèse importante d'Antoine Prot, ont très bien montré que dans le cas français, loin d'être des agents en quelque sorte belligènes, les anciens combattants ont été en France des facteurs de paix, un facteur de paix absolument fondamental, avec deux éléments qui doivent être ici soulignés. D'abord, l'implantation de ces associations d'anciens combattants. Il y en a une, voire plusieurs, dans chaque commune. C'est tout à fait exceptionnel par rapport à ce que représente l'engagement associatif en général des Français, plus limité qu'ailleurs. Et deuxième élément important, l'importance des monuments qui ne sont pas des monuments à la victoire, qui sont pour leur immense majorité des monuments aux morts. Et les monuments aux morts, qui aujourd'hui peuvent au fond être considérés comme au fond des édifices du passé, sont pour les hommes, les femmes, les enfants de l'entre-deux-guerres quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est là où ils se retrouvent et où ils se retrouvent tous, en particulier le 11 novembre. Le 11 novembre est le moment où les anciens combattants et leurs associations, dans leur diversité, les élites locales, les deux écoles, l'école publique, l'école privée, le curé, l'instituteur, se retrouvent pour, ensemble, avec évidemment les enfants, toute la communauté, célébrer ces morts du premier conflit mondial. Donc il y a véritablement une empreinte de la guerre dans cette France des années 30, une empreinte de la guerre et la crainte, pour ne pas dire la hantise, que pourrait provoquer la survenance d'un nouveau conflit mondial qui pourrait, au fond, à travers la saignée qu'elle pourrait de nouveau représenter, cette nouvelle guerre, anéantir le pays. Je crois que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'importance du pacifisme chez ces Françaises et ces Français des années 30. Alors, est-ce à dire que les uns et les autres sont d'accord en matière de politique étrangère ? Évidemment non. Il y a un clivage de fond qui concerne évidemment l'Allemagne. Et c'est l'évolution de ce clivage de fond qui est intéressante à observer. Du côté de l'Allemagne, cela étant, il y a un point commun entre les différentes positions. C'est que chacun tient à la paix. Simplement, comment va-t-on obtenir la paix de l'Allemagne ? Soyons clairs, durant les années 20 et toute la première moitié des années 30, pour les droites, et notamment pour les droites nationalistes de l'Action française, la paix avec l'Allemagne s'obtiendra par la force, par le respect, par cette dernière, du traité de Versailles. Un traité de Versailles qui est d'ailleurs critiqué, y compris à droite, mais dont on considère qu'il doit être un rempart et effectivement un moyen pour contraindre l'Allemagne. Le traité de Versailles, les réparations, l'Allemagne, à partir de là, doit pouvoir rentrer dans le rang une fois pour toutes. D'autres ont une vision différente, pensent qu'avec une Allemagne démocratique, eh bien, une entente est possible. Il serait donc bon de dialoguer avec cette Allemagne démocratique, d'assouplir un certain nombre de conditions du traité de Versailles, mais cette position vis-à-vis de l'Allemagne, elle a au fond le même objectif que ceux de leurs adversaires, c'est-à-dire au fond obtenir la paix. Et c'est en cela que l'avènement d'Adolf Hitler et ses suites change la donne. Car à ce moment-là, la menace de guerre se précise. Une menace de guerre qui se traduit par la politique annexionniste du Führer. Une politique annexionniste, évidemment, qui va culminer dans la deuxième moitié des années 30 avec les affaires de Tchécoslovaquie ou de Pologne. Mais ce qui caractérise, malgré tout, cette société française, puisque c'est d'elle dont on parle, c'est au fond essentiellement son pacifisme, un pacifisme qui est, par exemple en 1936, extrêmement répandu, pour des raisons différentes, opposées d'ailleurs parfois, au moment de l'affaire qu'on a appelée la remilitarisation de la Rhénanie par le Reich. En France, personne ne veut intervenir. De l'Action française au Parti communiste, pour des raisons différentes, eh bien, on s'accommode d'une situation où on n'intervient pas. Alors, cela étant, le changement de perspective et effectivement la politique expansionniste de Hitler bouleverse la donne, je vous le disais. Pourquoi ? Parce que elle va, cette politique expansionniste de Hitler, redistribuer complètement les cartes. Redistribuer les cartes et opposer deux camps en France, ce que on peut appeler les pacifistes, et l'autre, ce que leurs adversaires vont appeler les bellicistes. Alors l'opposition pacifiste et belliciste n'est pas une opposition droite-gauche. Ce serait évidemment beaucoup trop simple. Toutes les forces politiques sont divisées en leur sein, par cette opposition. Même si le pacifisme est dominant, je rappelle que les accords de Munich ont été ratifiés à une quasi-unanimité, à l'exception du Parti communiste, mais qui suit sa propre logique à ce moment-là. Mais il y a deux députés, un député de droite, un député socialiste, qui ne les votent pas. C'est tout. Tout le monde, sinon, ratifie les accords de Munich en 1938. Mais cette division pacifiste-belliciste, eh bien, elle irrigue tous les partis. À gauche, le Parti socialiste est coupé en deux. Et si le Parti socialiste, au fond, ne s'engage pas dans une scission avant 1940, c'est parce qu'on est 20 ans après Tours et qu'on ne veut pas d'une nouvelle scission. À droite, la division est très importante. Il y a des bellicistes, entre guillemets, convaincus, comme Paul Reynaud, par exemple, et il y a des pacifistes, comme Pierre-Étienne Flandin, dont on a déjà parlé. Du côté des nationalistes, eux qui étaient pour une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne, se retrouvent pacifistes. Mais si on prend le cas par exemple de Maurras, Maurras et l'Action française ne sont pas pacifistes tout d'un coup parce qu'ils ont découvert les charmes de la paix ou parce qu'ils seraient devenus hitlérophiles. Maurras n'a jamais cessé d'être à la fois germanophobe et, j'allais dire, hitlérophobe. En revanche, ce qu'il est important de noter dans sa démarche, c'est l'accent qu'il met, et il n'est pas le seul, sur le fait de ne pas aller livrer une guerre à l'étranger pour une cause qui ne serait pas la nôtre. Pas question d'aller se battre, comme on le dit à l'époque, pour les francs-maçons de Prague, et encore moins de s'engager dans une guerre juive pour défendre les juifs opprimés en Allemagne, etc., etc. Alors, c'est un élément intéressant parce que le combat sur la guerre et la paix croise évidemment des enjeux de politique intérieure et met l'accent aussi sur la question du danger d'un ennemi intérieur. La France de la fin des années 30 est en effet marquée par une montée des peurs, une montée des angoisses liées au complot, à une menace intérieure, extérieure. Ce sont tous les débats, toutes les polémiques sur une éventuelle cinquième colonne. Et il est clair que la situation devient de plus en plus malsaine, de plus en plus pesante. Cela étant, après les accords de Munich, qui ont vu les Français dans l'ensemble les soutenir, c'est après les accords de Munich que on a fait pour la première fois des sondages en France. Les Français les soutiennent, ces accords de Munich, mais progressivement l'opinion revire. Et j'allais dire qu'entre l'affaire de Tchécoslovaquie, donc de mars 1939, et le pacte germano-soviétique d'août 1939, la situation évolue. Les Françaises, les Français se sentent progressivement acculés à une guerre qu'ils ne veulent pas, mais à laquelle, de toute façon, ils vont bien se résigner. Et cette guerre, qui n'a pas été voulue, qui n'est pas non plus complètement subie, mais que l'on craint et que l'on redoute par-dessus tout, cette guerre, elle est en même temps redoutée par les dirigeants politiques eux-mêmes. Et je voudrais citer ici un exemple ô combien révélateur. C'est le discours que prononce Édouard Daladier au Parlement, à la Chambre des députés, il est élu au Sénat, à l'occasion de l'entrée en guerre. À l'occasion de l'entrée en guerre, le discours d'Édouard Daladier comporte 3 fois le mot guerre, 10 fois le mot paix. C'est quand même un problème pour mobiliser évidemment un pays. Deuxième élément, ce discours est prononcé, mais aucun vote ne suit. Donc on entre au fond presque dans la guerre discrètement. La situation est tout à fait différente de celle de 1914. Et quand on a parlé de la drôle de guerre, pour caractériser au fond la période qui va de septembre 1939 jusqu'à 1940, jusqu'à l'entrée effective, la percée allemande, l'attaque allemande du 10 mai 1940, eh bien cette drôle de guerre au fond, elle démarre vraiment le 3 septembre 1939, au lendemain de ces discours d'Édouard Daladier. Alors, pour conclure, 2 ou 3 éléments sur cette crise des années 30, 2 ou 3 éléments généraux. La première, c'est que, au fond, l'épilogue de cette crise, c'est évidemment la défaite de 1940. La défaite de 1940 montre pour les contemporains, illustre pour les contemporains, l'incapacité qui aurait été celle de la France terre républicaine à sortir le pays de la crise. Et on l'a oublié, sans doute depuis, mais les Vichy, bien sûr, ça on le sait, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que la résistance et la France libre également, en particulier, ont fait le procès à ce moment-là de cette Troisième République réputée effectivement incapable d'avoir sorti le pays de la crise. Cela étant, c'est une crise collective et la défaite est une défaite dramatique, mais c'est une défaite, j'allais dire, elle aussi polymorphe. C'est une défaite militaire, c'est une défaite politique, c'est aussi une société qui est en plein délitement, l'Exode le montre, et dans ces conditions, le traumatisme, évidemment, est un traumatisme national. Il est un peu facile, évidemment, d'incriminer tel ou tel acteur. C'est plus compliqué. Deuxième élément important, c'est que cette crise des années 30, on l'a vu, n'a pas trouvé de solution. C'est incontestable et l'approche décadentielle a beau jeu de montrer comment en matière, par exemple, internationale, eh bien, la France est allée de difficulté en renoncement pour arriver à la déroute de 1940. Il n'en demeure pas moins, et je voudrais terminer là-dessus, que si, évidemment, la France des années 30 n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas voulu se sortir de cette crise, n'y a pas réussi à tout le moins. Cette crise des années 30, en même temps, elle a permis de mettre en avant un certain nombre d'éléments que l'on retrouve par la suite et qui montrent que cette France des années 30 n'est pas forcément une France aussi immobile et aussi veule qu'on a pu le penser. Premier élément important, on l'a évoqué. C'est la question économique. À la fois, la France donne le sentiment qu'elle ne bouge pas, mais en même temps, elle évolue. La modernisation qui s'observe dans la première moitié des années 30 se poursuit et se poursuit pendant les années qui suivent. Encore une fois, la France de 1930 n'est pas la même que celle de 1938, et celle de 1938 annonce assurément celle des années 50 sur un certain nombre de points. Deuxième élément important, du point de vue politico-institutionnel, c'est bien sûr la grande faiblesse du régime, mais je dirais que si la réforme de l'État, là aussi, n'a pas vu le jour, la France des années 30 peut être considérée comme une forme de laboratoire qui a permis, par la suite, au projet de réforme de l'État de voir le jour dans un contexte très différent qui a été celui de 1958. Alors, pour conclure, je dirais que malgré les condamnations répétées qu'ont pu livrer les contemporains sur cette période, et à la fois des récits contemporains, mais des récits de souvenirs, il suffit de penser par exemple aux propos terribles que tient Raymond Aron dans Le Spectateur engagé sur la France des années 30. Je dirais que l'historien qui regarde évidemment les choses avec peut-être davantage de distance, à défaut de se vouloir l'avocat de cette période, ça n'a aucun sens, aura peut-être un jugement un peu moins péremptoire que celui des contemporains.